La dictature occidentale ne se cache même plus vis-à-vis de l'Afrique. L'arrogance, insulte, le racisme envers les Africains atteint un niveau inégalé. Selon certains médias mainstream, le vote des États africains concernant le conflit en Ukraine est qualifié de vote indiscipliné. Européens et Américains n'ont pas apprécié visiblement que 27 pays du continent n'apportent pas leur voix à l'Occident. Selon des sources au sein de l'Union européenne, l'ancienne ministre de la Défense allemande devenue depuis 2019 présidente de la Commission Ursula von der Leyen envisage sérieusement de punir les États qui se sont abstenus ou ont voté contre la résolution présentée à l'ONU. Il serait donc question de ne plus verser les aides au développement, aux récalcitrants et de basculer les fonds vers les caisses de l'Union africaine pour le grand bonheur de Moussa Faki, le président de la Commission. Vous êtes avec nous ou contre nous semble être la nouvelle devise de l'Union européenne, balayant ainsi d'un revers de main tous ces grands discours sur la démocratie, le souverainisme et l'indépendance des États. Une déclaration donc qui en dit long sur donc la continuité du néocolonialisme en Afrique de l'Occident. Cette nouveauté est un message que l'Occident orchestre encore donc sa politique néocoloniale envers l'Afrique. Et cette même femme pourrait exprimer ou condamner le comportement raciste contre les Africains qui voulaient fuir l'Ukraine. Au lieu d'une condamnation, les Européens ont plutôt utilisé la politique du déni. Rien que pour ce comportement, il est clair que les pays africains n'auraient même pas dû prendre part au vote. Et au passage, il est également important de rappeler que les décisions prises par les Occidentaux pour l'Afrique dans leur réunion ou leur sommet ne prennent jamais en compte les voix des Africains. Quand leur Conseil de sécurité prend la décision, par exemple, d'envahir la Libye, il n'y a jamais eu aucune concertation avec les pays africains, surtout les pays voisins de la Libye. Donc si l'OTAN se la joue cavalier seul, qu'elle le fasse jusqu'au bout. Pourquoi ils auraient besoin de la voix des Africains concernant l'Ukraine alors qu'ils ne demandent jamais l'avis des Africains concernant le continent africain? De plus, les annonces faites par les ambassades ukrainiennes dans certains pays d'Afrique voulant recruter des Africains pour qu'ils servent évidemment de char à canon, comme si on était encore à l'époque des tirailleurs africains, suscite également des condamnations de la part des pays occidentaux. Mais ce fut le silence complet. Le problème, c'est que les temps deviennent durs pour les occidentaux et encore une fois, ils comptent compenser leurs pertes grâce à l'Afrique. Mais le nombre impressionnant d'abstentions parmi les pays africains a bien fait monter la crainte chez les occidentaux. Ils sont en train de perdre l'Afrique. Et cette perte leur revient en pleine figure et les oblige à sortir de leur déni légendaire. L'ambassadeur français en Côte d'Ivoire, par exemple, insulte ouvertement les Africains sur un plateau télé ivoirien. Ursula von der Leyen n'a pas condamné ses propos insultants, qui disait que si les Burkinabés, les Nigérians ou les Maliens descendent dans les rues pour exprimer leurs sentiments anti-français, c'est parce qu'ils sont instrumentalisés par des puissances extérieures et qu'avec un simple sandwich et un Coca-Cola, ils sont prêts à faire ce qu'on leur demande. Pourtant, c'est le silence complet du côté des Occidentaux qui sont au courant de ce genre de propos, qui, pour rappel, est quand même un représentant d'un État. Ursula von der Leyen devrait également s'impliquer et condamner davantage les nombreux Africains qui sont victimes donc d'esclavage en Libye. Bref, les condamnations vont dans les deux sens, pas seulement dans le sens des Occidentaux. Et tant que cela ne rentre pas dans les cases des von der Leyen et compagnie, ce n'est même pas la peine de se tourner vers les Africains. Au Mali, la prudence prime. La communauté des États de l'Afrique de l'Ouest a organisé donc ce vendredi à Accra au Ghana un sommet extraordinaire sur la situation sociopolitique au Mali auquel est invité le colonel Assimi Goïta. Mais le président de la transition malienne a décliné cette invitation et devrait être représenté par son ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop. Immédiatement, donc la confiance a disparu et il est clair que les autorités maliennes préfèrent jouer la carte de la prudence car évidemment un incident pourrait vite arriver. Soit ce serait le président Assimi Goïta qui pourrait être victime directe donc d'un incident, soit à Bamako, un coup pourrait se préparer pendant son absence. Voilà ce qui pourrait effectivement arriver et cela dit, le Mali sort tout de même gagnant. À l'origine, la CEDEAO voulait un calendrier de retour des civils à la tête du pays. Mais le problème, c'est que généralement dans ce genre de pays, peu importe qui prend la tête du Mali, le système en place est tel que c'est de toute façon donc la France qui décide pour le pays. Et c'est les autorités maliennes donc veulent y remédier. La CEDEAO a demandé l'organisation d'élections dans un délai de 12 à 16 mois pour être sûr que la transition ne réussisse pas et que ce fameux système se remette en place. La communauté des États ouest-africains a conditionné une levée progressive des lourdes sanctions économiques et diplomatiques qu'elle a infligées au Mali le 9 janvier à la présentation d'un calendrier acceptable pour eux, pour la tenue d'élections. Ce sommet extraordinaire sort l'occasion donc pour les deux parties de tenter une nouvelle fois de trouver un accord sur la durée de la transition en cours au Mali. Et il faut dire que le colonel Assimi Goïta a toujours été en phase avec le peuple malien qui demande même à leurs autorités de quitter cette organisation des États ouest-africains. A noter que cette rencontre intervient au lendemain de la levée par la Cour de justice de l'UMOA des sanctions économiques infligées au Mali. Effectivement, après plus de 2 mois d'endurance des sanctions illégales et illégitimes, le Mali est sur le point donc d'être remis dans ses droits par une justice sous-régionale. Vu l'incompatibilité des mesures édictées aux Maliens par les chefs d'État et de gouvernement de l'UMOA, la Cour de la justice de l'UMOA ordonne, sur des bases juridiques, le sursis à l'exécution des dites sanctions infligées aux Maliens. La décision souverainement rendue par la Cour de la justice ouest-africaine procure un ouf de soulagement aux plus de 21 millions de Maliens. L'information divulguée courant donc la journée d'hier de jeudi a été appréciée par pas mal de citoyens de l'intérieur et de l'extérieur. Dans un communiqué parfait par Amidou Omeogo, le greffier adjoint de la Cour de justice de l'Union économique et monétaire ouest-africain, confirme avoir décidé la suspension des sanctions en vigueur contre le peuple malien. La justice relaye avoir donc accepté de recevoir la requête déposée par l'État du Mali contre les mesures des chefs d'État africains. Nous déclarons la requête aux fins de sursis à l'exécution introduite par l'État du Mali recevable en la forme, indique-t-on dans le communiqué de la Cour. Par conséquent, la justice indépendante s'est également penchée sur la suspension des mesures prises par l'UMOA en date du 9 janvier contre les Maliens. Nous ordonnons le sursis à l'exécution des sanctions prononcées par la conférence donc des chefs d'État et le gouvernement de l'UMOA lors de sa session extraordinaire tenue à Accra au Ghana le 9 janvier, en figurant dans son communiqué final, ressortons dans le document. Ainsi, par requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 février 2022, sous le numéro 22, l'État du Mali a saisi la Cour de la justice de l'UMOA, et ce par l'organe de son agent et de ses conseils, à l'effet d'apprécier la légalité de la décision portant sanction adoptée contre le Mali suite à la conférence de l'UMOA. Courant le même 15 février, le Mali a introduit une autre requête devant la Cour de l'UMOA pour des fins de sursis à l'exécution des sanctions prises contre le pays, rappelle-t-on dans le document de la Cour. Dans le même communiqué, la Cour de justice explique qu'en date du 16 février, le greffier de la Cour a notifié au représentant légal de la conférence des chefs d'État et du gouvernement de l'UMOA la requête aux fins de sursis à exécution, voire l'ensemble de l'ordonnance donc numéro 4-2022 du 16 février 2022 donc du président de la Cour, fixant à 30 jours le délai de présentation des observations par rapport à la demande en sursis à exécution. Dans sa requête, donc aux fins de sursis, doit-on le rappeler, l'État du Mali soutient que la conférence des chefs d'État et le gouvernement a adopté des sanctions à son encontre et formulé comme suit dans son communiqué final. Les chefs d'État et de gouvernement décident d'endosser les sanctions arrêtées par la conférence des chefs d'État et du gouvernement de la CEDEAO lors de ses sessions extraordinaires en date du 12 septembre et 7 novembre 2021. Les chefs d'État et le gouvernement imposent donc des sanctions additionnelles vigoureuses, notamment des sanctions économiques et financières, et aussi se plaignaient, donc le Mali dans sa requête, la conférence des chefs d'État et du gouvernement de l'UMOA reste solidaire avec les sanctions qui seraient prises par les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO lors de son sommet extraordinaire du 9 janvier. Et par ailleurs, la dite donc, conférence a suspendu le Mali des organes et institutions de l'UMOA. Aussi, le Mali a argué que la conférence de l'UMOA a endossé toutes les sanctions antérieures au 9 janvier de la CEDEAO contre le pays, voire entériné toutes celles additionnelles prononcées par la décision Donc, MSCA, donc du 9 janvier, des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, que sont le rappel pour consultation par les États membres de la CEDEAO et de leurs ambassadeurs accrédités auprès du Mali. La fermeture des frontières terrestres et aériennes, la suspension de toutes les transactions commerciales et financières entre les États membres de la CEDEAO, le gel des avoirs du Mali, la suspension de toute assistance et transaction. Qualifiant la mesure de la conférence de l'UMOA d'une ingérence dans sa politique intérieure, le Mali a alors plaidé pour ce sursis à l'exécution de ces lourdes sanctions qui sont dommageables. Chose qui a été finalement acceptée par la Cour de la justice de l'instance juridictionnelle. Le Mali avait également affirmé à la Cour qu'il est en train de subir un préjudice certain, immédiat et difficilement réparable dû aux mesures illégales de l'UMOA. Selon le communiqué du collectif des avocats, donc signé par Maître Moustapha Cissé, la décision donc, que la Cour de justice de l'UMOA a rendue en faveur du Mali est insusceptible de recours. Ce qui voudrait dire que la Cour, à travers la dite décision, a ordonné la suspension immédiate des sanctions susvisées, ce qui marque une nouvelle victoire pour le Mali. L'inquiétude des États-Unis augmente par rapport à l'Afrique. Les États-Unis sont conscients et donc ce qui leur préoccupe le plus, c'est la perte d'influence de l'Occident sur le continent africain. Pascal Ayrault, dans un article, donc, a résumé fort bien l'état d'esprit américain en titrant que Joe Biden veut garder l'Afrique dans l'axe du bien. C'est peu de dire que le résultat du vote de l'Assemblée générale des Nations unies appelant la Russie à retirer immédiatement, complètement et sans condition toutes ses forces militaires en Ukraine a provoqué un certain émoi. Seuls 28 pays africains sur 55 ont approuvé la résolution et les autres se sont soit abstenus, soit ont pratiqué la politique de la chaise vide et seule l'Érythrée a voté contre. L'affaire est prise donc très au sérieux à Washington. L'ambassadrice américaine à l'ONU a déclaré qu'il ne pouvait pas y avoir de terrain neutre et que cette crise n'était pas simplement une compétition de guerre froide entre l'Occident et la Russie. Dans la foulée de la résolution, le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken a reçu Moussa Faki, le président de la Commission africaine. Quant à la secrétaire d'État adjointe, Michèle Sisson, elle s'est rendue au Mali le 15 mars et s'apprête à venir en France. Enfin, le général Towson, patron de l'Africom, s'est fendu récemment d'une série de tweets manifestant son attachement et son intérêt soudain pour le continent. Peut-être que l'Amérique a pu ignorer l'Afrique dans le passé, mais ce n'est pas l'avenir. Nous sommes les partenaires de choix dans une grande partie de l'Afrique. L'US Africom protège et fait progresser les intérêts américains, empêche la distraction stratégique et préserve les options de l'Amérique. Si, avec de telles envolées, les Africains ne sont pas conquis et continuent la distraction stratégique. Cette visite, comme ces déclarations, montre que Washington cherche à reprendre la main en Afrique. Ferait-il de moins en moins confiance à son partenaire français pour assurer l'endiguement de la Russie et de la Chine sur le continent? Il est vrai que le Mali et la Centrafrique, notamment, ne votent plus en cœur avec la France et des voix comme celle du Sénégal, dont le président est aussi celui de l'Union africaine, pour l'année en cours, ou du Congo-Brazzaville se sont abstenus. Comme tous leurs homologues de par le monde, donc les chefs d'État africains, sont sensibles à l'état d'esprit de leurs opinions publiques et celles-ci ne sont pas majoritairement pro-occidentales. Loin de dissiper ce rejet des politiques extérieures de la France, de l'Union européenne ou des États-Unis, la guerre en Ukraine l'exacerbe. Les doubles discours sur le traitement de ce conflit par rapport à ceux de Libye, d'Irak ou d'Afghanistan agacent. Le sort fait en ressortissant, qu'ils soient latinos, asiatiques ou africains, qui tentent de fuir Kiev indigne. L'accueil privilégié accordé aux réfugiés ukrainiens qui fuient les bombardements comme tant d'autres avant eux choque. Quant au propos d'un racisme décomplexé prononcé par certains commentateurs de plateaux télé et d'hommes politiques sur ces fameux réfugiés qui nous ressemblent, cette immigration de qualité dont on pourrait tirer profit, ils ne sont pas de nature à faire basculer les opinions publiques dans le fameux axe du bien. Quelle que soit la durée de la guerre dans l'Est de l'Europe, celle-ci aura également et nécessairement des conséquences sur les dispositifs militaires de la France et des Européens au Sahel. Un premier dégât collatéral a déjà eu lieu, les Antonov ukrainiens sur lesquels la France comptait pour opérer son désengagement donc du Mali, et rapatriés du matériel lourd ont été détruits par l'armée russe sur l'aéroport de Gostomel. Paris opère des rotations avec l'A400M qui ne transporte que 37 tonnes au lieu de 250 tonnes du plus gros avion cargo, ce qui ne simplifie visiblement pas une tâche déjà délicate. A priori, la reconfiguration de l'opération Barkhane ne devrait pas être modifiée puisqu'elle était déjà engagée avant le 24 février. Et pour l'instant, les contours du nouveau format restent encore flous. Les observateurs sont confrontés au brouillard de guerre, pour employer une expression tendance actuellement. Les déclarations faites par le général Michon, commandant de la force Barkhane à Ouagadougou, sont contradictoires avec celles d'Emmanuel Macron. Ce dernier avait déclaré donc qu'il ne s'agit pas de déplacer ce qui se fait au Mali ailleurs, mais de renforcer ce qu'on fait au Niger et de soutenir davantage le flanc sud. Or, le général Michon a annoncé, lui, que ce retrait ne consiste pas à se repositionner au Niger. Selon certaines informations, le nouveau dispositif devrait être éclaté entre divers pays, Côte d'Ivoire, Bénin, Niger, Burkina Faso, mais rien ne semble arrêté. Les annonces sont prévues pour le mois de juin, soit après l'élection présidentielle. Au passage, la guerre en Ukraine écrase tout. Il est regrettable qu'il n'y ait ni débat sur le sujet pendant la campagne électorale, ni bilan de l'engagement français au Sahel sous ce quinquennat. Reste qu'il y a fort à parier que les prochains arbitrages laisseront encore une portion plus congrue du nouveau dispositif. Les stratèges de l'armée française ne seront plus enclins à faire pression pour accentuer l'effort de guerre dans la bande sahélo-saharienne afin de sanctuariser le budget des armées. Le conflit dans l'Est de l'Europe a miraculeusement replacé ce dossier sur le haut de la pile. Et en outre, les moyens en hommes et en matériel ne sont pas extensibles. Or, il est fort probable que lors du sommet extraordinaire de l'OTAN qui doit se tenir le 24 mars, l'Alliance demande des troupes aux États membres pour renforcer son flanc oriental. L'acte de décès de l'opération Takuba, grand chantier de Emmanuel Macron, est déjà écrit, même s'il n'est pas officiellement acté. Par ailleurs, quatre pays, Roumanie, Tchéquie, Estonie, Pologne, encore engagés, ont d'autres priorités. L'Allemagne, elle, s'interroge sur la poursuite de son engagement au sein de la mission de formation de l'Union européenne au Mali, au sein duquel sont employés 300 de ses concitoyens. Cette réflexion a été entamée avant le déclenchement de la guerre en Ukraine. Et en tout cas, en tout état de cause, son maintien ou non ne sera pas existentiel. Lors d'un récent sondage, 8 Maliens sur 10 ne connaissaient même pas cette mission. Quant à l'OTAN, qui étudiait les possibilités d'étendre ses partenariats aux pays de la région du Sahel, elle n'a plus besoin d'aller voir ailleurs, puisqu'elle a retrouvé sa raison d'exister, combattre la menace russe. L'existence de la force des Nations Unies au Mali, la MINUSMA, n'est pas au moins... pour l'instant, remise en question, mais ça ne saurait tarder. Quels que soient les défauts structurels de cette force, sa présence reste indispensable pour les Européens. Et il est à noter aussi que pendant toute la période d'intense tension entre le gouvernement français et malien, la MINUSMA est restée dans une posture de stricte neutralité car elle n'avait pas le choix. C'est tout à son honneur peut-être de ne pas avoir reproduit les erreurs de l'ONUCI lors de la guerre de 2011 en Côte d'Ivoire. Cependant, selon les hauts responsables de l'ONU, le départ de Barkhane compliquerait sa mission et la rendrait encore plus dangereuse, sans force de réaction et sans appui aérien. Mais la France a proposé, par ce biais, histoire de garder une main dans le Mali, de continuer à apporter cet appui à la MINUSMA, mais à la condition expresse qu'il n'y ait pas de pseudo Wagner, comme l'aurait spécifié le général Michon lors de sa conférence de presse à Ouagadougou. Concernant la société militaire privée russe, Antonio Guterres a lui pris une position plus mesurée en déclarant en janvier dernier que c'est une décision souveraine du gouvernement malien d'avoir une coopération avec une organisation comme celle-là. Il a ajouté que la seule chose que nous voulons, c'est que ça ne crée aucune difficulté à notre mission. Néanmoins, une réflexion sur l'augmentation des moyens de la MINUSMA, sa force de réaction et un mandat plus solide devraient nécessairement être à l'ordre du jour. Donc pourquoi pas ne pas en profiter? La situation reste inchangée dans le G5 Sahel, si tant qu'il en est donc les moyens. Le problème de ses ressources étant récurrent depuis ses débuts en 2014. L'Union européenne est le plus grand bailleur du G5 et du Sahel. Or, même si elle dispose de budgets conséquents, avec la guerre en Ukraine, il n'est plus certain que cette région fasse partie de ses priorités. Depuis 2014, Bruxelles a accordé plus de 18,2 milliards d'euros d'aide et de prêts à conditions très favorables à l'Ukraine, sachant en plus qu'avec le conflit, les prêts qui représentent environ la moitié de cette somme ne seront pas remboursés. Les pays de la région du Sahel ont reçu quelque 8 milliards d'euros d'aide depuis 2013. Les budgets ne sont eux non plus pas extensibles, après le quoi qu'il en coûte de la pandémie et les conséquences des sanctions imposées à la Russie, l'inflation et les difficultés économiques guettent les États européens. En bref, le deux poids deux mesures bat son plein. En janvier, la firme de conseil en énergie SP Global Platts avait annoncé le vol de pétrole comme l'un des principaux défis auxquels le secteur pétrolier du Nigeria devrait faire face cette année. Au Nigeria, le régulateur du secteur pétrolier, donc la Nigerian Upstream Petroleum Regulatory Commission, a annoncé ce mardi l'ouverture d'une enquête fédérale sur le vol récurrent de brut dans le pays. La procédure fait suite aux révélations il y a deux semaines du président de l'indépendant Petroleum Producteur Group, Abdul Razak Issa, sur la question. Selon ce dernier, plusieurs producteurs de la région du Delta du Niger auraient subi en 2021 entre 15% et 99% de pertes liées à des actes de siphonnage de brut. Une commission d'enquête constituée d'experts de l'industrie pétrolière a été mise sur pied. Elle va auditer sur au moins deux ans les opérations des compagnies pétrolières actives dans le secteur amont. Selon un responsable, l'opération vise à établir l'exactitude des chiffres annoncés. Si ces chiffres se confirment, souligne-t-il, tous les mécanismes nécessaires seront activés pour aller à la racine du problème. La récurrence du vol de pétrole, principalement dans la région du Delta du Niger, préoccupe de plus en plus les autorités nigériennes. En 2021, le président Muhammadu Buhari avait instruit plusieurs agences gouvernementales de régulation du secteur d'œuvrer à l'endiguement du phénomène, et ceci dans un contexte où les ambitions de production de la compagnie pétrolière nationale sont mises à mal, l'empêchant de relever le niveau de la production nationale pour jouir de la hausse des cours. Au Bénin, comme dans la plupart des pays africains, la hausse généralisée des prix de plusieurs denrées de base, donc depuis quelques mois, pose de nombreux défis. Et pour faire face à cette situation, les autorités multiplient les interventions sur le marché intérieur. Au Bénin, le gouvernement a donc décidé, donc ce 23 mars, en Conseil des ministres, de procéder à une exonération pour les trois prochains mois de la taxe sur valeur ajoutée perçue sur la farine de blé et les huiles végétales, qu'elles soient produites localement ou importées. Cette démarche permettra de baisser de 15% les prix du bidon de 25 litres d'huile de coton locale, d'huile de palme raffinée sur place et importée. Par ailleurs, le sac de 50 kg de farine de blé diminuera entre 15% et 20%, ce qui garantira la vente aux consommateurs des baguettes de pain de 160 g et 200 g respectivement à 125 francs CFA et 150 francs CFA. Il faut noter que la suppression des prélèvements fiscaux fait partie des nombreuses mesures adoptées par l'exécutif afin de limiter la flambée des prix des produits de grande consommation dans un contexte international marqué par la hausse des coûts logistiques et les tensions sur les marchés de plusieurs denrées de base comme les huiles et les céréales. L'État entend poursuivre notamment pour trois mois supplémentaires avec le renoncement à la TVA sur le riz importé appliqué depuis le début d'année et permettant donc au sac de 50 kg de la céréale d'être commercialisé à 18 450 francs CFA contre 20 500 francs CFA précédemment. Et parallèlement, il sera mis en place sur la dite période un abattement de 50% sur le prix des frets maritimes et de 2/3 pour les frets aériens pour le calcul des droits de douane. Aux côtés de la Namibie et du Maroc, l'Afrique du Sud se penche sur le développement d'un nouveau procédé de raffinage du zinc en collaboration avec le département d'Afrique de l'Association internationale du zinc. Et si les travaux sont concluants, le zinc raffiné produit aidera à soutenir la demande locale dans la nation arc-en-ciel. Le scénario idéal envisagé serait d'aboutir à une solution d'ingénierie chimique réalisable pour lancer la construction d'une nouvelle raffinerie de zinc. Et selon les détails relayés donc par Mining Weekly, cette dernière pourrait être établie à Saldanha Bay, site jugé approprié parce que possédant déjà une zone de développement industriel située à proximité d'un port d'exportation de minerais de zinc, en plus d'autres raisons stratégiques. Le pays qui contribue lui-même au financement de la recherche a également pu compter sur le soutien de deux sponsors donc industriels, à savoir la compagnie minière Vedanta, active en Afrique du Sud sur le projet Gamsberg, et Duferco Steel Processing qui galvanise de l'acier à Saldanha Bay. L'étude expérimentale mettra l'accent, apprend-on, sur la réduction de l'empreinte carbone pour s'aligner derrière les impératifs de la transition énergétique en cours sur le plan mondial. La Banque africaine de développement a annoncé avoir reçu 3,3 milliards de dollars d'engagement de la part d'investisseurs pour le projet du corridor ferroviaire devant relier Dar es Salaam en Tanzanie à Bujumbura au Burundi et Kinshasa en République démocratique du Congo, avec une extension prévue jusqu'à Kigali au Rwanda. Ceci fait partie d'un ensemble de promesses donc faites par les bailleurs au profit de l'Afrique de l'Est à l'occasion donc du Forum africain et l'investissement 2021. Le dit corridor fait partie des projets de chemin de fer à écartement standard que voudrait développer la Tanzanie pour accorder ses ports, notamment celui de Dar es Salaam, aux zones enclavées de son arrière-pays. Les pays visés étant donc le Burundi, la RDC, la Zambie, le Rwanda et l'Ouganda. Considérée comme la deuxième plus importante plateforme portuaire d'Afrique de l'Est, après celle de Mombasa, le port de Dar es Salaam est devenu un maillon incontournable de la chaîne d'approvisionnement de certains des pays susmentionnés. Dans de nouvelles perspectives, la Tanzanie a consenti de gros investissements pour accroître les capacités d'accueil de son port principal. Ce réseau ferré devrait renforcer la diversité des sources d'approvisionnement de ces pays, boostant ainsi l'intégration régionale.